Est-ce qu'on te punissait quand t'étais enfant?
T'as vécu le bolossage.
Tu sens ton bac S au quotidien. Est-ce qu'il y a un aliment que tu aimerais bien voir disparaître de la surface de la Terre? Tu sais danser un petit peu quand même. À quel point est-ce que tu parles portugais? Quelle est ta position sur les rapports sexuels qui font intervenir plus de deux personnes?
Voilà. On passe vite du coq à l'âne, hein,
ouais,
dans Small Talk. Je peux boire un peu avant cette question?
Bien sûr.
Ouais, parce que ça,
bien
ça,
sûr,
ça
prends ton temps.
T'as des petites lingettes
pour les lunettes, ouais.
Parce que, par exemple, utiliser ton pull, c'est...
Ça les salit encore plus, du coup, j'y vois encore moins. Du coup, après, accident de scooter, du coup, j'ai opté pour la petite lingette.
Mais en fait, je vous connais tellement bien.
Là, vous dites, mais attends, je croyais qu'on avait changé de cafette, et on est de retour dans la cafette d'avant, je comprends pas.
C'est très simple à expliquer, on ne tourne pas les épisodes dans l'ordre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, calmez-vous. On diffuse un épisode qui a été tourné avant celui qui a été diffusé il y a 15 jours. C'est pas si dur à comprendre non plus.
Tu es venu d'ailleurs en deux roues.
Je suis venu en deux roues.
C'est ton moyen de locomotion.
C'est mon moyen de locomotion parisien plus efficace pour être à l'aise, heureux et voilà.
Et pas peur de la mort
en
deux roues. En deux roues spécifiquement.
En deux roues,
parce que tu augmentes la probabilité du décès.
Alors, pour avoir longtemps pris certaines lignes de métro, il y avait plus de chances de mourir dans la ligne 4 à certains arrêts qu'en deux roues, je crois.
Oui.
Et depuis qu'on me reconnaît un petit peu dans la rue, j'ai quand même pas mal de chances de me faire caresser les cheveux par un inconnu. Donc
ouais,
le scooter est le moyen de locomotion le plus fiable.
Parce que à la fois rapide et en plus, comme tu portes un casque, on ne voit pas ton visage. Or, c'est la chose la plus reconnaissable chez toi.
Et c'est mon petit moment tout seul, tranquille.
Tu t'es jamais pris un trottoir ou un truc comme ça?
Alors, écoute, je touche du bois.
Ouais.
Je me suis pris... histoire assez folle. Je rentre de tournée il y a 2 semaines.
Ouais.
Marathon de Paris. Qui bloque Paris.
Ouais.
Donc je prends un taxi, on fait 1 heure de taxi, on est au même endroit. Ce qui n'est pas le principe du taxi à la base, qui est censé te ramener chez toi.
Ouais.
Donc je prends un petit city scoot, je mets ma valise entre mes jambes, la valise se cogne contre un poteau, qui se cogne dans mon genou, 6 points de suture, au genou gauche. Mais après, et du coup j'ai fait des dates de tournée avec des points de suture, mais ça va. J'ai survécu.
C'était les premiers points de suture de son existence ou pas?
Non, j'en ai déjà eu.
Ouais.
Ouais. On m'a tiré dessus à plusieurs reprises.
Donc est-ce que c'est que de la douleur le point de suture ou il y a une volupté du point de suture?
C'est-à-dire?
Je sais pas.
Ah là, c'était que pénible.
C'était que pénible.
Ouais. Je suis parti de tournée à 10h, je suis rentré chez moi à 22h. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais pu aller au Brésil, mais je suis allé à l'hôpital.
Mais c'est-à-dire que ta valise dépassait des côtés du City Scoot?
Ouais, il y avait un problème purement logistique qui est que c'est pas fait, c'est soit l'un soit l'autre en général.
T'as été un petit peu audacieux quand même.
J'ai été un petit peu audacieux, fougueux et bête. Et ça m'a appris à prendre le temps. En fait, vaut mieux être en retard qu'à l'hôpital.
J'ai envie de rester un petit peu sur ce thème des moyens de transport.
Ça a commencé le small talk?
Ouais.
Ah oui, ok.
C'était pas forcément prévu que ça ait commencé, mais là je crois que ça a complètement commencé.
Ouais, je suis trop content.
Est-ce qu'il y a un moment où tu dis genre non mais attends là on m'a caressé les cheveux trop souvent dans la ligne 4, c'est plus possible?
Alors
t'as eu des anecdotes désagréables de ce point de vue là?
En fait j'ai un petit sketch sur ça, j'ouvre le nouveau spectacle par la notoriété.
Oui.
Et en fait en y repensant je pense que ce que je raconte est en dessous de la réalité.
Ouais.
Par rapport à tout ce qui m'est arrivé, ouais j'ai quand même des trucs assez marrant. Enfin, après, les gens sont rarement méchants, mais c'est vrai que c'est... Je pensais pas qu'il y avait que la notoriété, entre guillemets, installée autant de proximité ou de trucs permissifs par des gens que tu connais pas, quoi. Et ça me fait rire parce que En fait, je me suis dit, peut-être c'est des gens de 50 ans qui sont relativement éduqués, qui ont une distance par rapport à ça, et en fait, c'est les pires, quoi. On me tire par les cheveux, on me caresse le dos. Et bon, je suis pas contre, mais c'est juste que un mardi à 15h à Limoges, j'étais assez surpris. Tu vois, t'es pas forcément prêt à ça psychologiquement.
Ouais.
Mais voilà.
En fait, ça commence tout doucement avec le tutoiement. Jamais de ta vie, on te tutoierait si t'étais pas connu, en fait. On dirait vous dans la rue, tu dis vous.
Oui, bien sûr.
Mais ça commence par Benoît. En fait, je le connais, je l'ai vu souvent.
Ah, ouais.
Et ça finit par.
Je peux te faire un câlin.
Ouais.
Mais après, je le prends avec du recul et je me dis, écoute, En fait, si tu vois ça avec le mauvais prisme, tout devient une horreur.
Ouais.
Donc j'essaie de me dire que c'est de l'amour maladroit et que ça me fait des sketchs dans le pire des cas. Donc ça va.
C'est un truc qui change ça quand on est humoriste, que vraiment les pires choses de ton existence sont un peu monétisables d'une certaine façon,
ouais,
puisqu'elles peuvent entrer à l'intérieur de ton travail, ce qui est pas le cas quand t'es comptable, tu vois.
C'est vrai. Ouais. Et moi, c'est devenu même un peu maladif, c'est-à-dire que je me force à faire des trucs ça m'est déjà arrivé de me mettre dans des situations galères exprès en me disant ça va me faire un sketch. Mais c'est un peu dangereux, quoi, parce qu'à ce jeu-là, tu peux finir dans une favela,
oui,
en disant allez, c'est pas grave.
À te tirer dans le genou.
Ouais, voilà.
Je saigne.
Et après, pour une blague un peu moyenne,
ça fait cher
que tu fais après en spectacle, ça fait cher la blague, mais ça peut être une expérience.
Moi, j'adorerais dire que je t'ai connu avant que tu sois cool. Parce que tu sais, t'aimes bien connaître les gens avant qu'ils soient cool, parce que ça fait genre, moi, Paul Mirabel, moi, je le connais depuis 2007, moi je le suis depuis 2007. Mais non, en fait, je t'ai connu exactement en même temps que tout le monde, avec ton sketch, je me suis fait raqueter à Montreux. Et je me souviens de mon sentiment juste avant, quand j'ai lancé la vidéo, juste avant que tu commences à parler dans la vidéo, je me suis dit, quelle physique étrange.
Ah.
Je me suis dit, j'ai jamais vu une personne avec un visage comme celui-ci de toute mon existence, et j'avais déjà 37 ans, tu vois. Maintenant que j'étais devant moi là, et je l'ai déjà remarqué dans des choses que j'ai vues une fois depuis, je trouve que tu t'es désétrangisé un petit peu.
C'est pas trop grand.
Non, je veux dire que maintenant je sais pas, t'es plus, quand on met la photo de quand on met toi maintenant face à toi 2020,
ouais,
t'es plus normal.
Normal, ouais.
Est-ce que,
je sais ce que tu veux dire.
Est-ce que t'es d'accord avec cette analyse de ton visage?
Bah, c'est vrai que quand je regarde des trucs d'il y a longtemps, je ressemblais à un grand adolescent, quoi, il y a quelques,
oui,
années. J'en ai pas joué, mais disons que j'avais conscience un peu de représenter un peu ce truc-là, tu vois. Donc, après, en fait, c'était le moi de l'époque, tu vois. Il y a des, comment dire, même, je le vois par rapport à certaines comparaisons que les gens font d'avant, comme si j'avais un peu calculé ce truc-là. Non, c'est juste qu'à l'époque, j'étais plus mince, j'avais moins confiance en moi, donc ça doit forcément se voir dans l'attitude, la posture, ce genre de choses. Et je découvrais un univers complètement nouveau. Et après, je pense que le fait que ça fonctionne un petit peu et que je sente que je peux me débrouiller un petit peu dans un certain domaine d'activité, plus le fait de prendre quelques années supplémentaires et donc d'avoir d'être plus proche d'un adulte qu'un ado, ça m'a sûrement transformé à plein de niveaux, quoi.
C'est-à-dire, tu dirais que tu t'appuyais un petit peu sur ce physique un peu étrange pour faire des blagues?
Bah, en fait, quand j'ai vu... En fait, j'ai un souvenir... C'est marrant, hein. J'ai un souvenir très particulier. Un jour, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai déjà joué dans une chicha où en première un jour, je crois que je fais la première partie de Farid et je monte sur scène. Il m'annonce, je monte sur scène. J'ai pas dit un mot. Les gens sont morts de rire. Mais vraiment, c'est pas il a l'air marrant.
Oui.
C'est vraiment, t'as l'impression que j'ai sorti la blague de l'année. J'ai pas ouvert la bouche, quoi. Et j'ai 30 secondes où les gens sont morts de rire alors que j'ai pas parlé. Et d'un autre côté, je me dis, mais c'est hyper méchant. Et après, il y a une autre voix dans ma tête qui me dit, mais en fait, c'est génial, parce que si t'as déjà un rire comme ça, sans parler, le moment où t'as une bonne blague qui arrive, ça va être super fort. Donc, j'ai capté que je pouvais incarner ce truc-là. Et ça m'a aussi servi pour le nouveau spectacle, à me dire, OK, je vois à peu près l'image que les gens ont de moi. Donc, j'ai conscience du pas de côté que je peux faire si je veux les surprendre, tu vois. C'est comme sur le premier spectacle, je bougeais pas du tout, mais c'était pas calculé, c'est juste que je suis pas, j'ai pas les compétences pour me déplacer sur scène. Et il y a un moment où j'allais boire et où en fait ça prenait vachement d'ampleur alors que j'allais juste boire, mais parce que je bougeais pas tout le spectacle, donc le seul déplacement qu'il y avait prenait de l'ampleur un peu.
Ouais.
Mais non, écoute, franchement, après en fait ça a aussi un peu touché un truc d'ego, c'est que je me rappelle les premiers comedy clubs que je faisais. Il y avait un peu des rires moqueurs au début, je sais pas. Ben, tu sais, c'était presque, c'était juste de la méchanceté de se dire, mais tu vas nous, pourquoi tu vas nous faire rire? T'es blond avec des cheveux longs et des lunettes, t'es pas marrant, tu vois. Oui. Mais je sais que là où les gens pensaient être méchants, moi, ça touchait un truc d'orgueil et d'ego et presque de, ouais, de oui. rappeur de dire, bah, ok, vous, vous allez voir, quoi. Je suis Eminem dans 8 Miles, je vais tous vous niquer à la fin.
En fait, c'est que, mais ça, je l'ai vu dans les humoristes qui commencent souvent, c'est qu'en fait, ton physique, c'est une prémisse de blague.
Ouais.
C'est que c'est un socle sur le, puisque c'est le, un truc que t'as en commun avec les gens qui sont devant toi. Genre, ils ont, tout le monde voit ton visage, donc tu peux construire dessus, quoi.
Bah, surtout, ça raconte vachement de choses avant que tu parles. Tu vois, même la façon dont t'es habillé. Ça m'est déjà arrivé de faire l'expérience quelques fois. Ça m'est déjà arrivé de jouer une ou deux fois. Sans lunettes, les cheveux attachés, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Parce que forcément, je pense qu'inconsciemment, les gens se racontent une histoire, même la façon dont t'es habillé. Si je monte sur scène en jogging, puis la capuche, c'est pas la même chose que en chemise, tu vois. Et donc, tant que ça reste naturel et que ça reste cohérent avec ce que t'es, je pense que c'est là où c'est le plus simple, quoi. Faut pas essayer de se travestir sur scène, j'ai l'impression.
J'ai l'impression que t'avais aussi un côté plus féminin.
À l'époque.
À l'époque. Et maintenant, t'es juste un mec beau gosse. Enfin, t'es juste.
C'est... Non, écoute, franchement, je pense que...
Après, on parlera d'autres choses que de ton visage.
Non, non, après, en fait, je pense que... En fait, j'aurais bien aimé pouvoir faire le comparatif si j'avais fait si j'avais eu une vie alternative. Est-ce qu'à 29 ans, je pense qu'à 29 ans, t'es forcément différent d'à 22, 23, mais que tu sois boulanger, comptable ou humoriste, tu vois. Après, nous, c'est vrai que y a de la visibilité, donc tu vois, si, c'est facile de comparer une vidéo par rapport à une autre de maintenant, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que n'importe qui regarde des photos d'il y a 5-6 ans, où tu dis, mais pourquoi j'avais mis ce t-shirt, ça va pas du tout, etc. Ouais. Non, je pense que par contre, il y a un truc qui a changé fondamentalement, c'est que j'étais beaucoup plus inhibé et timide, quoi. Et oui, je pense que la confiance en soi est beaucoup passée par le fait que les gens me renvoient que mon travail leur plaisait. Forcément, c'est valorisant, donc tu te caches un peu moins et t'as un peu plus de confiance en toi, quoi.
Est-ce que tu sais, t'aurais une explication de savoir pourquoi est-ce que t'es timide au départ, à ton avis? Par rapport, je veux dire, il y a des gens, moi je suis assez timide aussi, mais il y a des gens, ils sont pas timides, quoi.
Ouais, ouais.
Genre Michael Youn. Pas timide. Qu'est-ce qui fait dans ton histoire que t'as été timide? Peut-être qu'il y a pas d'explication, c'est juste que tu l'as remarqué, comme ça.
Alors, j'ai déjà essayé un peu de réfléchir dessus. Je sais pas si c'est un semblant de réponse, mais comme j'ai un petit frère autiste, qui du coup lui prenait un peu de place sans le vouloir, tu vois. Je pense que ça a dû jouer dans le processus, que je me mette un peu en retrait en me disant je veux pas me faire remarquer, sachant que déjà il y a quelqu'un dans ma famille qui prend de l'espace. J'ai pas envie d'être un problème supplémentaire. Après, je sais pas sous quelle mesure les caractères sont donnés à la naissance, tu vois. Est-ce que si j'avais pas eu ce frère là, est-ce que j'aurais été timide ou pas, je sais pas. Mais je sais pas, j'ai toujours je trouve qu'on peut te pardonner d'être en retrait. Là, on te pardonne moins de prendre trop de place, donc je préfère tu vois, choisir si j'ai envie de prendre de la place plutôt que de l'imposer aux autres.
Est-ce que historiquement t'es à l'aise avec les gens qui sont pas du tout timides, c'est-à-dire qui arrivent et qui précisément ils vont faire machin et toi tu lâches un peu. Est-ce que t'es attiré par les gens qui sont contraires de toi de ce point de vue-là ou pas?
Non, je pense pas. Enfin, ouais. Ça revient un peu à ce qu'on se disait sur les gens dans la rue, tu vois, qui est parfois une forme de timidité complètement cassée en fait. Non, écoute, dans mon entourage, j'ai des gens de tout caractère, donc ça me dérange pas, quoi. Moi, je sais que je serais incapable de faire ça, et j'ai toujours été incapable de faire ça, mais voilà.
Mais ce que tu dis aussi, t'as cité les rappeurs, et les rappeurs, en tout cas dans l'image qui se donne, c'est les antipodes de la timidité, quoi.
C'est
vraiment faire le contraire totalement, quoi.
Ouais.
Mais moi, je sais que étant timide un petit peu, genre En fait, je suis un peu désarçonné par les gens qui le sont pas, quoi.
Ah oui, je vois ce que
c'est
tu veux dire.
C'est un peu genre, qu'est-ce que je vais faire? Et je me sens, tu sais, tout à coup, je dis, mais comment il arrive à savoir où il doit mettre ses mains?
Ah oui.
Tu vois? Ah ouais. Et toi, t'es là, je dis, alors que lui, il gère ses bras sans problème.
T'sais. Moi, je suis, après, je suis fasciné de, pareil, j'aimerais avoir la capacité de complètement lâcher prise. Tu vois, ouais. Genre, je sais pas, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des soirées, par exemple, dans des restos où la musique est trop forte, ce qui déjà est un, pareil, je suis comme toi, je sais pas où me mettre, je sais pas quoi faire, je sais pas où regarder et tout. Qui plus est maintenant où tu rajoutes parfois des gens qui te reconnaissent, donc qui te regardent, donc qui te fixent, qui moi me renvoient à des trucs assez durs à gérer, mm-hmm. et d'avoir un pote à moi qui monte sur une table et qui fait tourner une serviette, je me dis mais qu'est-ce que j'aimerais arriver à faire un blackout complet et à dire il y a personne autour et je monte sur une table et c'est parti, on envoie des serviettes. Mais je suis assez fasciné par les gens qui arrivent complètement à lâcher prise. Moi, je suis trop dans le contrôle.
Je me souviens qu'à une époque, moi, l'alcool pouvait m'aider un petit peu.
Ouais.
Et ça t'est arrivé d'utiliser l'alcool pour sortir de toi-même?
Complètement. Ouais. Alors là, je bois pas d'alcool, plus d'alcool depuis longtemps. Un jour, du jour au lendemain, je me suis dit en fait, j'aime pas ça. Je pense que je fais ça purement par mimétisme parce que mes copains boivent et qu'on nous a toujours mis en tête qu'à 18 ans tu peux boire de l'alcool. Mais en fait, si je fais la liste, il y a aucune raison qui est bonne à prendre dans tout ça. Donc du jour au lendemain, j'ai dit en fait plutôt que d'essayer de passer des bons moments en me rajoutant l'alcool, je vais juste essayer d'aller dans des endroits qui sont vraiment des bons moments en fait, plutôt que de transformer des bons moments avec un prisme de alcoolisé, tu vois. Et donc j'ai complètement arrêté mais ça m'est déjà arrivé comme tout le monde, je pense à 17 18 ans de boire un peu pour me lâcher et en fait c'était pas modéré et je me disais je préfère passer du temps à essayer d'être à l'aise et plus être timide plutôt que de trouver une petite potion magique à chaque fois qui va jamais solutionner le problème en fait, qui va que le repousser à la prochaine soirée.
Ouais. Voilà. Mais t'as quand même parlé dans tes sketchs, t'as beaucoup parlé de séduction. Et moi, mes souvenirs, maintenant, je bois, enfin, je suis plus jamais bourré de, jamais, en fait. Mais à une époque, quand même, ça permettait de franchir des petites, des petites terreurs, en fait, quoi. Ouais, mais même ça, en fait, c'était pas un combustible suffisant. Enfin, en tout cas, c'était pas assez bien pour que tu continues, quoi.
Si, je l'ai déjà fait, je pense, à 17, 18 ans pour me donner un peu confiance en moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que, mais il y a un truc dans l'équation qui allait pas, parce que si t'as besoin de quelque chose pour arriver à dire la vérité, arriver à être sincère, arriver à être courageux, en fait tu dis, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais devoir avoir un moment où je me sens un peu fébrile, je vais devoir boire, c'est pas possible, tu vois. Puis le lendemain tu t'as trop bu, puis tu regrettes, puis t'es fatigué. Ouais. Donc en fait je me suis dit, peut-être prenons le problème de face, comment je fais pour gagner un peu en confiance en moi sans passer par des alternatives.
Par l'alcool, moi je me souviens qu'il y a tous ces gens qui disent, il y a un certain nombre d'activités où les gens ils disent ah non mais attends, il faut être bourré pour aimer, comme le karaoké par exemple. Et moi je pense que c'est la preuve qu'il y a un problème avec, comme en fait c'est très voisin de ce que tu dis, il y a un problème avec l'activité de départ.
De base,
si t'as besoin d'être défoncé pour pouvoir l'accepter, c'est peut-être que c'est pas bien en fait.
Bien sûr.
C'est le principe, quoi. T'es né au mois de novembre, ce qui veut dire que si t'étais pas prématuré, t'as été conçu au mois de février de la même année.
Je suis né un peu en avance, donc j'ai dû être conçu
mois de mars peut-être.
Faut que je me renseigne aussi, pareil. Ouais.
Est-ce que tu sais dans quelles circonstances est-ce que c'est faite ta conception?
Non, j'ai une conception stable, je pense.
Normal. De bons appuis.
Je crois que ça faisait longtemps que mes parents voulaient avoir des enfants. Novembre.
Mars.
Après, j'ai pas de souvenir précis de ma vie avant mardi dernier, je te cache pas. donc ça, là. Mais sinon, non, je crois normal. Je suis arrivé à Montpellier, tranquille.
On t'a dit des choses, on t'a raconté des anecdotes ou des choses précises sur ta naissance. Est-ce que t'étais déjà de grande taille?
Je crois que je suis né. J'étais grand. J'étais pas très gros. Et je crois que il me semble, il y avait un petit risque que je survive pas, mais j'ai dû être assisté un peu les premiers jours, quoi.
Ah oui.
Ouais, en couveuse ou quelque chose comme ça.
Oui.
Donc voilà. Parfois, je me dis que c'est peut-être un peu grâce à ça que je suis un battant sur certains trucs. Oui. Voilà.
Peut-être à cause du caractère prématuré de ta naissance.
Ouais, c'est possible.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on t'a fini ta grossesse dans une boîte. Enfin, oui, ta mère a fini sa grossesse.
Exactement. Ouais.
C'est quoi le premier souvenir de toute ton existence? Alors, tu viens de dire que c'était mardi dernier, j'espère pas, sinon...
Non. Ok. Alors, je sais pas si... Je sais pas, ça te le fait. Parfois, il y a des trucs, tu dis, est-ce que je l'ai inventé ou est-ce que je l'ai vraiment vécu?
Oui.
Je me suis fait opérer des yeux petits. Et c'est un des premiers souvenirs que j'ai de genre d'hôpital, un truc comme ça.
Oui.
D'un moment où on m'emmène dans un bloc opératoire. Je dois pas être très, très vieux. Hein. Je pense que j'ai... 3-4 ans max, tu vois. Et je me souviens de ça, du réveil un petit peu, de ma mère qui m'avait offert un Monsieur Patate de Toy Story.
Le Monsieur Patate où tu mets, où tu peux le...
Mettre des trucs dedans, je crois que c'est ça.
Ouais.
Voilà.
T'avais fun fact sur Monsieur Patate, au départ, Monsieur Patate, c'était que les objets sans la patate en plastique et tu le plantais dans des vraies patates.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, ok.
Petit fun fact.
Okay,
je me suis permis, comme j'avais cette information à disposition, je me suis dit que j'allais te la transmettre. T'avais 2 ans et demi lors de la Coupe du Monde 98.
Oui.
Est-ce que t'as le moindre souvenir? Non.
Non.
Non. Zéro.
Non. Premier souvenir de foot, je crois que c'est un truc un peu flou, c'est Coupe du Monde 2002.
Ouais.
Et vrai souvenir figé, c'est... Arsenal-Barcelone, un peu avant.
Ouais.
C'est la même année. Je crois que c'est
2006.
Juin 2006. Ouais.
Ouais.
Voilà. Donc j'ai 10 ans.
Est-ce que t'as été triste à un moment de te dire, tiens, je me souviens pas de la Coupe du Monde de 98? Genre, oh, j'aurais tellement aimé.
Je me dis, j'aurais tellement aimé, mais pour plein de raisons maintenant que du recul. Pas de téléphone. Première fois que ça arrive, et je pense de ce que j'ai entendu des gens qui m'ont vécu une vie beaucoup plus légère pendant X mois après où en fait il y a pas de problème et la France est championne du monde. Et après j'ai été un peu soulagé qu'on l'ait gagné en 2018, donc je me suis dit j'ai eu la chance quand même de vivre ça une fois dans ma vie et en me disant qu'il y a des gens qui connaîtront jamais ce sentiment parce qu'ils sont nés au Danemark, avec tout le respect que j'ai pour le Danemark, mais je pense pas qu'ils gagnent la Coupe du Monde dans les prochaines années.
Ils ont pas genre été en finale d'un Euro, le Danemark, ou une demi-finale. Non,
je sais pas, c'est possible, mais
ouais.
Ils ont. Je pense pas.
Ça fait.
Ouais. En tout cas, il y aura Mbappé sur leur chemin si un jour ils osent arriver.
Ils essayent de faire ça.
S'ils essayent de tenter ce truc, ouais. Mais ouais, donc ça m'a soulagé de l'avoir vécu un peu.
Est-ce qu'on te punissait quand t'étais enfant?
Oui, je pense. Ouais. Franchement, éducation cool, je pense, mais avec certaines limites à pas dépasser. Ouais.
C'était lesquelles?
Le manque de respect pour quelqu'un, l'intolérance à certains comportements, les mauvaises notes aussi.
T'étais pas très fort?
Si, enfin non, pas. Ça va, à l'école, franchement, globalement, jusqu'à un certain âge, ça allait. Après, il y a eu, je pense que je me suis pris tous les problèmes de l'adolescence d'un coup, qui fait que l'école est devenue accessoire. Mais comme beaucoup d'ados, j'ai l'impression qu'il y a un moment où tout prend trop de place et tu dis, bon, allez, les maths, on verra après. Déjà, j'essaye d'être bien dans ma peau.
Ouais.
Non, je crois que j'ai eu des bonnes notes et jusqu'au lycée, à peu près. Après, c'était un peu plus dur. Mais. Certains principes d'éducation assez basiques qui font que voilà, j'ai dû me faire gronder quelques fois, mais j'étais assez sage.
Oui.
J'ai pas fait de crise d'adolescence et tout, je crois que de ce qu'on m'a raconté, j'ai vraiment été assez chill toute ma vie, quoi.
Et fluide.
Ouais.
Tu te souviens de la première blague qui t'a fait ultra rire? Genre, comment c'est drôle et comment tu jouis de la tête tellement c'est drôle.
Alors dans les deux sens, je me rappelle un jour me battre avec un de mes deux petits frères, se disputer, enfin dispute d'enfant, et je crois qu'il pleurait, et à un moment je sais pas comment me dire est-ce qu'il pleure ou est-ce qu'il est en train de rigoler en lui faisant une blague, et donc d'avoir transformé un truc qui aurait pu valoir de me faire gronder et de m'embrouiller avec mon petit frère, juste on est deux frères qui rigolent par terre, quoi. Donc je me rappelle un peu de la première blague que j'ai fait, et après je me rappelle.
Et c'était quoi cette blague?
Je sais pas, mais peut-être, je sais pas, des chatouilles, j'en sais rien, un truc où en fait c'est dramatique et en une fraction de seconde ça change et il rigole et on s'est réconcilié. et c'est pas si grave que ça. Et après, je crois que ça doit être. J'ai l'impression que c'est le premier, enfin la première fois que je vois le spectacle de Gad Elmaleh,
oui.
Où je me dis mais c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ce monsieur, j'habite à Montpellier, j'ai 9 ans et il me raconte qu'il va chez Ikea et je trouve ça extraordinaire. Quoi. Alors que je suis probablement jamais allé chez Ikea, ouais. Pour l'instant, je sais même pas ce que c'est, mais il décrit un truc chez moi, j'ai l'impression de l'avoir alors que peut-être non. Ah ou sinon peut-être c'est un peu avant, alors peut-être, pardon, je t'ai dit une bêtise, je crois que c'est Astérix Mission Cléopâtre qui doit ouais. être plus 2002-2003, ouais. quelque chose 2002, comme ça. Ouais. Et je pense toutes les blagues, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Ça me fait rire. C'est trop bien. Franchement, il y a des trucs de qui parfois tu dis la vie ouais. est quand même cool quand il y a ouais. certains trucs à disposition.
Non, mais d'accord. Ça c'est la blague du mec très très sûr de lui et qui va trop loin dans le fait qu'il est sûr de lui.
Ah,
qui arrive pas à le gérer quoi. Le meilleur cadeau de ton enfance, un cadeau qui t'a retourné la tête.
Le ballon de foot Nike Total 90 jaune. Je sais pas si t'as la référence, c'est très précis. Je crois que c'est un ballon qu'ils ont ressorti il y a quelques mois.
Ouais.
Ça doit être 2006, pareil, un ballon de foot jaune avec des bandes violettes ouais. autour. Incroyable.
Et c'était un ballon officiel de quelque chose ou...
Ouais, je pense que c'était un ballon Ligue des Champions ou quelque chose comme ça.
Oui.
Et j'avais l'impression d'être Ronaldinho. Je passais des heures dans mon jardin de foot, dans mon jardin, à jouer au foot tout seul et à me dire mais c'est génial en fait, c'est un jeu sans fin. Je peux jouer toute la journée, le jeu il se termine jamais quoi.
Ce qui est oui ben c'est très vrai. Ouais. C'est vous, j'ai une histoire très voisine. Moi mon grand-père il avait un magasin à Paris de sport, c'était son travail et il avait donc des prix pour avoir des produits Adidas
ouais.
et il avait eu le ballon de la Coupe du Monde 90.
D'accord.
Et je me souviens mais exactement de ce même émerveillement de en gros tu touches le même ballon que ouais. Maradona, c'est le même
ouais,
c'est ça, donc tu es un peu lui quoi.
C'est celui que tu vois à la télé.
Ouais, exactement.
Ah ouais, tu le ranges, tu le ouais. tu veux pas qu'il s'abîme.
Ouais.
Ah ouais.
Mais donc c'était pas une console de jeu, pas un truc, c'était un ballon quoi.
Ouais, et en plus je me rends compte que tu vois, c'est comme pareil. Je pense que j'imagine que, enfin, je pense que ma mère m'a acheté des Harry Potter petits. Mm-hmm. Et en fait, c'est des trucs qui ont l'air simples, mais en fait, je sens maintenant l'impact que ça a eu dans ma vie d'avoir eu la chance de qu'on me suggère un peu et qu'on me pousse à lire des livres et à m'inventer des histoires oui. dans ma tête. Je me rends compte que c'est les cadeaux les plus simples entre guillemets qui ont oui. qui ont le plus changé ma vie sur certains aspects quoi. Un ballon de foot et un livre, après c'est parti pour des années d'aventures ouais. Extraordinaires.
Tu te souviens de la première personne sur laquelle tu as fantasmé?
Oh. La dernière, je m'en rappelle très bien. La première. La première. Ce qui est attends. Dans quel sens? Dans le sens sentimental ou dans le sens...
Ce qui se passe généralement dans l'enfance, c'est que ces deux choses sont un peu mêlées, quoi. C'est-à-dire, tu fais « Ah, j'aimerais bien lui faire des bisous, mais en même temps, ça me peut chatouiller. »
Je réfléchis. Alors, c'est, en termes purement fascination pour quelqu'un, je pense que Ronaldinho, très vite. Non, mais dans le sens... En fait, pour moi, c'était un personnage de dessin animé.
Ouais.
C'était un gars avec une. Enfin, ouais, c'était un. Il avait pas le physique de tout le monde. Il faisait comme ça avec des grandes dents. Il était trop ouais. fort. Et il avait enfin, on a l'impression qu'il s'amusait quand il faisait son travail. Mm-hmm. Donc moi, je me disais, je suis Ronaldinho. Je veux sourire toute ma vie et jouer au foot et, ouais. et être content.
Et mais après... t'as jamais franchi la frontière du désir avec lui?
Avec Ronaldinho, je pense ouais, pas. Non.
Okay. T'as jamais eu de désir pour Ronaldinho?
Non. Ouais. Après, en termes de désirabilité, je sais pas.
Ça peut être un peu. C'est vrai que l'enfance peut être un peu exagéré, mais ça peut être le.
Ah si. Attends, j'ai. J'ai. Je pense que c'est Padmé dans Star Wars.
Padmé dans Star Wars.
Padmé dans Star Wars, dans le 2.
Je vois pas, j'ai envie de voir.
Nathalie Portman. Nathalie Portman, ouais. Qui joue Padmé Amidala, la princesse.
Mais spécifiquement, Nathalie Portman incarnant ce rôle, en fait.
Bah alors à 7 ans, j'ai pas eu l'occasion de la croiser dans Montpellier hors de ce rôle.
Parce que je veux dire, la plupart des gens, ils vont dire genre, ah, Nathalie Portman. Et toi, tu dis non. C'est une sous-catégorie de Nathalie Portman qui incarne Padmé.
Ouais. Ouais. Et pareil, j'ai repensé aussi il y a pas longtemps. Je crois qu'on m'a très vite mis devant les James Bond. Mais genre très tôt, hein, genre.
Trop.
À 6 ans, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas pourquoi. J'ai eu un flashback il y a pas longtemps de me dire, mais je regardais James Bond à 6 ans et j'ai l'impression que le profil de James Bond, c'est que c'est quand même un gars en smoking avec dans chaque film une meuf très jolie et qui est là juste pour manifestement servir le désir de James Bond.
Oui.
Et ce qui est très bizarre d'ailleurs comme conception.
Quelquefois, je crois qu'elles ont des compétences quand même.
Oui, mais plus les vieux, vraiment, à part être jolies, ils leur ont malheureusement mis aucune compétence, quoi.
Oui.
Et donc, il y a peut-être eu 2-3 Alberi ou un truc comme ça, mais je vais mettre ce truc de désirabilité sur Padmé Nathalie Portman.
C'est plus pur.
Oui.
C'est plus pur. Ah, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un instituteur ou une institutrice qui t'a marqué? Enfin, beaucoup, quoi. Dont tu te souviens et tu fais genre... En fait, je serais pas la même personne s'il n'y avait pas eu cet instituteur.
Eh ben, écoute, je crois que quand j'étais... Moi, j'ai eu un... Quand je me suis fait opérer des yeux, donc ça doit être... Alors, je sais pas... Pareil, je le situe pas très bien. Mais j'ai eu, après, pendant quelques temps, un cache sur l'œil pour corriger un strabisme.
Oui.
Et je crois que j'étais en grande section et que du coup, j'y voyais rien, en fait. Je me cognais partout, tous les meubles et tout. Et ce qui est pas hyper agréable quand t'as 5 ans, quoi. Et on avait des exercices de dessin, et je me rappelle précisément qu'un jour la maîtresse a pris mon dessin, l'a déchiré en disant c'est de la merde, mais comme si je faisais pas d'effort, quoi. Alors vraiment, c'est comme si j'avais dessiné comme ça, tu vois. Et je me rappelle qu'un des autres élèves qui était censé être un de mes camarades de classe s'était aussi moqué de moi. Et je m'étais pris un truc d'apprentissage de la vie de, ah ouais, en fait, parfois, t'as l'impression que tu fais des choses bien. Et en fait, tu croises juste des gens méchants. Donc la vie se passera pas tout le temps comme tu veux. Mm-hmm. Et en plus, ce même camarade s'était moqué de moi alors que je crois que la récré d'avant, c'était mon pote. Donc je m'étais dit, ah oui, en plus, tu peux te faire trahir par des gens que t'aimes bien. Donc premier apprentissage de la vie qui est, même si t'as l'impression de pas déranger et que tu mets toute ton énergie dans le fait d'être le plus discret possible et de juste rester dans ton coin, tu peux avoir des gens pas très gentils qui interfèrent, mais voilà. C'est le premier souvenir, c'est une maîtresse qui a pas compris que en fait,
mauvaise qualité.
Ouais, si... enfin, je sais pas si c'est de mauvaise qualité et je lui en veux pas, mais parce que ça m'a éduqué sur le fait que parfois il faut se prendre des petits murs pour avancer, mais de me dire ah oui, c'est pas hyper gentil, j'ai un cache sur l'œil, j'y vois rien et en plus vous me déchirez mon dessin. On va se recroiser dans quelques années, maîtresse. Attendez que je sois en CM2, ça se passera pas de la même façon.
Et qui était ce... Quel était le nom du traître?
J'ai plus.
T'as
mais...
plus. J'ai plus où il est aujourd'hui.
Non, si la vie lui a rendu mais le... J'ai vraiment le truc de... Mais... On était censé être un crew. Je pensais qu'on allait marcher dans les rues de Los Angeles en bombant le torse dans quelques années.
Mais là, le truc, c'est que la personne qui dirige l'autorité avait dit il est nul.
Ouais.
Et donc, il a fait moi aussi, je trouve ça nul, c'est ça.
C'est vraiment le truc, je crois. Je pense que c'est dans les Simpsons, tu sais, où ils se retournent, ils font comme ça.
C'est très triste comme histoire. C'est vraiment triste.
Ouais, mais après, tu sais, je me dis, bon, ça forge. Hein.
Mais c'est bien ce que t'as dit quand même, genre, non, mais c'était peut-être pas forcément, c'était peut-être une bonne chose qu'elle me fasse ça, qu'elle m'humilie publiquement. Mais c'est vrai que si tu tires le truc, c'est genre, non, mais il a eu raison de me poignarder dans le visage parce que du coup, ça m'a appris que les couteaux, ça fait mal.
Mais je te promets que je vois toute ma vie de cette façon-là. Ouais, depuis quelques années, en fait, je me dis, à part des choses, et encore, tu vois, même des trucs dramatiques, etc., je me dis, c'est que une leçon de vie pour que ça aille mieux après et que tu sois plus mieux armé après.
Ouais.
J'ai eu tellement de trucs où je me suis dit, ah ouais, en fait, sur le coup, ça peut être dur, mais en fait, ça m'a juste servi à être plus fort quelques années après. Comme Son Goku, tu sais, dans Dragon Ball, quand il y a un ennemi super fort, il perd, après il va s'entraîner, il revient, il est encore plus fort. Bah voilà, je le vois que comme des expériences comme ça.
T'as eu d'autres expériences du même niveau de tristesse que ce dessin déchiré?
J'ai l'impression que toute ma vie, ça a été que ça. Franchement, enfin, je suis pas très âgé, donc je sais pas si je vais pouvoir généraliser ça à long terme, mais j'ai l'impression que là, tu vois, je me rappelle d'une grosse déception amoureuse à 20 ans, 19 ans, un truc comme ça, où je me vois vraiment rentrer chez moi, faire le petit chemin pour rentrer chez moi et voir des feuilles de tomber des arbres parce qu'on est à l'automne et pleurer parce que je me dis c'est trop triste, il y a une feuille qui tombe, donc profondément triste et malheureux avec potentiellement une musique très triste dans les oreilles. Ouais. Et quelques années après de me dire en fait cette fille je vais réussir à la séduire en faisant un spectacle d'humour dans mon école. Et donc en fait, je sais que si j'avais pas été triste, j'aurais sûrement pas eu envie de rebondir du fond de la piscine, tu vois, de donner oui. une impulsion et dire bah vas-y, là en fait, il faut secouer un peu les choses et me lancer dans l'humour. Donc en fait, je sais que tous les gros downs qu'il y a pu y avoir entre guillemets, m'ont boosté dans plein de trucs après. Et même ce nouveau spectacle part aussi d'un truc similaire. Donc en fait, à chaque fois, je me dis...
D'un échec voisin, mais depuis ton succès, donc
Ouais. Ce spectacle part à 99% d'une peine sentimentale. Et je me suis dit, bon, ok, bah, c'est là. Il y a maintenant que c'est là dans ma vie, il y a deux options. J'ai l'impression, soit toute ma vie, je suis triste et c'est que pénible et douloureux. Ouais. Et en fait, je reste dans cet état-là. Soit, bah, c'est là, je le prends de face. Et maintenant, c'est comment on l'affronte de la meilleure des façons, quoi, sans sombrer. Et donc je me suis dit, ok, bah vas-y, c'est là, je vais en faire un spectacle, je vais faire rire des gens, je vais le cristalliser dans une œuvre qui fait que ça va m'apaiser un petit peu, voilà.
Alors, deux questions. Est-ce que ça a marché, le spectacle que tu as fait dans ton école avec la fille que tu voulais séduire ?
Alors, ça n'a pas marché pour la fille, mais ça a marché parce que, pareil, là où je le vois comme une victoire, moi, c'est que, en fait, ce jour-là, je me suis dit, j'ai trouvé un sens à ma vie, à ce que je veux faire, et je ne veux plus jamais faire autre chose que ça.
Mais c'est, en fait, c'est toujours la façon dont on voit l'échec. Je trouve que c'est souvent, en fait, quand on est revenu de l'échec, qu'on a dépassé l'échec, qu'on trouve que l'échec est génial.
Ouais.
Mais quand t'es en plein, quand t'es en plein dedans, c'est un petit peu dur d'avoir cette même pensée, quoi. Quand tu te prends vraiment un gnon dans la face de voir le côté positif du gnon.
Oui, c'est vrai que.
C'est un peu genre, rétrospectivement, je suis devenu humoriste grâce à ça.
Ouais.
Mais c'est longtemps après, quoi. C'est-à-dire que.
Ouais, mais j'ai quand même foi dans le fait que.
Ouais.
Que tout te sert un peu, tu vois, comme dans, je sais pas, comme dans un jeu vidéo, genre t'as trouvé un objet au début du jeu, tu te dis putain, ça me sert à rien, et en fait tu le ressors 5 ans après, et ça tu vois, ça boucle une pièce du puzzle qui manquait. Tu te dis, si j'étais pas passé par là, je serais jamais arrivé là.
Est-ce que tu cherches, du coup, les situations genre handicapantes et difficiles dans la perspective de pouvoir les dépasser pour pouvoir. Ça, c'est peut-être le niveau au-dessus, quoi.
Bah, écoute, j'ai un peu pareil. On me l'a fait remarquer parce que je m'en rendais pas compte, mais j'ai compris que j'étais. En fait, ça a longtemps été un complexe, mais je crois que je suis plus courageux que ce que je pensais. C'est-à-dire que, je sais pas, je me vois il y a 5-6 ans, je faisais 5-6 comedy clubs par soir, et j'allais tout seul au fin fond du 93 jouer dans des chichas. Qui sont un environnement des plus hostiles, tu vois. Donc t'as vraiment des gens qui sont là avec des t-shirts Philippe Plein trop petits, en train de fumer. Tu fais tes blagues, t'entends comme ça, et les gens sont pas là du tout pour rire. Et je me suis dit bon bah en fait si rit là, après je vais pouvoir faire rire partout, tu vois. Et donc j'avais un petit côté inconscient. Mais à chaque fois, je me disais, je veux me mettre dans des situations compliquées. Enfin, c'est un peu cette phrase dans le sport, entraînement compliqué, match facile, quoi. Mmh. Et donc, j'aime bien pousser mes limites et voir jusqu'où je peux aller. J'aime bien la difficulté. Franchement, j'aime bien me mettre dans des bourbiers un peu, très honnêtement.
T'as cité un truc très méchant qu'on t'a fait la maîtresse et ton ami qui te trahit. Est-ce que toi, tu te souviens de faire des choses méchantes quand t'étais enfant ou jeune adolescent?
Peut-être au collège, tu vois, des comportements d'autres ados plus sur deux, où tu dis, en fait, là, si je le prends avec du recul, t'es juste mal à l'aise et tu le transposes sur quelqu'un d'autre. Mais je t'ai rien fait, il n'y a aucune raison que tu te comportes mal. Pourquoi tu te comportes de cette façon-là, tu vois? Et donc, je pense des gens, tu sais, qui... un truc qui m'a longtemps complexé, c'est pareil, des gens qui jugeaient sans qu'on se soit parlé, par exemple. Du style, je veux pas être ton pote, alors qu'on s'est jamais parlé, et je suis sûr qu'on aurait plein d'affinités si on prenait le temps de discuter un petit peu. Donc j'ai souvent eu l'impression d'être dans cette posture-là. Après, méchant, je pense, comme tout ado, peut-être j'ai dû avoir un mot au-dessus de l'autre à un moment donné face à quelqu'un potentiellement plus sensible et délicat que moi, et j'ai dû le regretter immédiatement, mais je pense pas avoir été méchant. J'espère pas.
Et toi, tu dis donc au collège, t'avais vécu le bolossage.
Pas bolossage, mais t'es... non, parce que pareil, je crois que les gens le soupçonnent pas, mais j'ai un petit côté... alors maintenant, c'est sûr que oui, mais je me suis jamais trop laissé faire, quoi. Après, ça, peut-être que je répondais pas de la même façon, et c'est sûrement... Je crois que, enfin, un de mes premiers souvenirs, tu vois, c'est... un de mes premiers souvenirs, pardon, du fait que l'humour m'ait sauvé de plein de situations. Je crois un mec qui se moque de moi dans la cour de récré. Et vraiment comme dans un battle de rap, quoi. Un cercle de gens autour et on est tous les deux au milieu. Et je crois, moi, qui l'enchaîne avec trois blagues encore plus marrantes et presque mic drop. Vas-y, mec, ciao. Ouais. Bon courage pour marcher dans la cour de récré après ce que je t'ai envoyé. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, j'ai un super pouvoir, en fait. Donc, je suis pas le plus fort, je crôle pas le plus vite. Je vais sûrement me faire défoncer à un moment. Mais par contre, la phrase qui est sortie, elle va rester dans ta tête pendant quelques mois.
Et elle va te ronger de l'intérieur, voilà, jusqu'à ce que tu mettes fin à tes jours dans 5 à 10 ans.
Jusqu'à ce que tu meurs. Et moi, je courrai toujours pas très vite, mais au moins, je serai là.
Tu te battais ou pas au collège?
Jamais. Je suis anti-violence au possible. Et je me suis un peu orienté vers quelques sports de combat là, c'est par la suite, mais non, jamais.
On décide rarement de se rajouter des gens qui nous tapent dessus. C'est juste des fois, il y a des gens qui veulent nous taper.
Oui, voilà. Oui.
Et c'est pas quelque chose qui t'est arrivé
Non.
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 T'as salomé. Mais peut-être avec les
Non, mais tu sais, j'avais pas de... Moi, j'étais presque timide maladif pendant de très longues années. C'est-à-dire que faire un exposé devant ma classe, ça cristallisait tout ce qui pouvait le plus s'apparenter à une souffrance et un calvaire. Mmh. Quoi. Donc en fait, je crois que c'est plus ça. C'est que en visualisant certaines situations qui pouvaient me mettre dans une position très inconfortable, je prenais toutes les précautions pour pas y arriver. Mmh. Exemple... ma phobie, c'est de faire d'être interrogé devant ma classe, parce que je vais mourir si je parle en public et ça va être traumatisant. Donc, il faut que je rentre tôt chez moi, que je fasse vite mes devoirs, que je les fasse bien et que je sois poli. Comme ça, je suis pas interrogé. Et donc, en fait, c'était que prendre des précautions pour pas arriver à des trucs qui vont me mettre en galère.
Et donc, ton niveau de cool au collège, tu dirais qu'il était où? T'étais aristocrate du cool, classe moyenne du cool, prolétaire du cool?
Moi, j'ai jamais eu l'impression de pas être cool. Mmh. C'est-à-dire que je savais un peu où je voulais aller, tu vois. Même si les gens me renvoyaient pas, je pense que les gens étaient à des années-lumière de me renvoyer le truc de t'es cool. Au contraire, on me renvoyait le t'es pas cool. Mais moi, j'étais en mode je sais que je suis cool, en fait. Et c'est pas parce que je suis pas cool auprès de tout le collège que je suis pas cool. D'ailleurs, personnellement, c'est pas parce que vous avez confiance en vous que je vous trouve cool. Je trouve que vous avez des défauts aussi. Donc par contre, je vais essayer de trouver les 2-3 copains avec qui faire mon gang de gens que je pense fondamentalement cool, qui sont d'ailleurs toujours mes amis proches aujourd'hui, tu vois. Et en fait, je me disais, si ça clique pas avec le mec ou la meuf populaire du collège, c'est pas grave, tant que ça clique avec la meuf au fond de la classe qui fait des dessins et mon pote qui regarde que des films en boucle ou quoi que ce soit, eux, ils sont cool d'une autre façon, donc on va faire notre petit gang de cool du fond de la classe et c'est pas grave. Quoi.
C'est mûr, quoi. T'avais pas envie de...
Ouais. Bah, et c'est surtout, tu vois, je pense que j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir des gens qui m'ont renvoyé ce truc-là. Et je me vois... Bon, ça, c'était un peu plus tard. C'était plus au lycée. Faire vraiment rire les deux personnes à côté de moi en classe, quoi. Et me dire, bah, ok, la masse, je suis pas le mec cool du collège. Bon, je pense que les gens du collège ne savent même pas que je suis dans ce collège, d'ailleurs. Mais les deux personnes à côté de moi rigolent et on s'entend bien, donc tant mieux. Je sais pas si on ira plus vite, mais on ira plus loin ensemble.
Est-ce que, à cette époque, ou depuis d'ailleurs, tu t'es pris des râteaux frontaux?
Ça m'a désarçonné. Bah ouais. Alors là, je pourrais faire un livre et 14 documentaires sur ça. Ouais.
Tu te souviens d'un râteau en particulier que tu aurais envie de nous raconter?
Ouais, j'en ai... Ah, mais ça, c'est... Ouais. Mais écoute, pareil, ça, je me suis dit, punaise, c'est dur. Mais à chaque fois, je me dis, en vrai, c'est quand même un peu marrant, quoi.
C'est... Oui.
un jour, oh, mais ça c'est ma vie, c'était râteau life. Mais je sais pas où ça clochait, mais ça clochait à un moment donné, tu vois. Je me rappelle une fois aller acheter un bouquet de fleurs pour une fille qui, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est ça qui me fait peur. C'était il y a 6-7 ans, tu vois.
Oui.
Mais j'étais quand même adulte avec des responsabilités et tout. Oui. Et je me vois vraiment aller devant le cours Florent parce que je savais qu'une fille qui me plaisait bien finissait ses cours à cette heure-là avec un bouquet de fleurs que j'avais acheté au préalable parce que j'avais étudié les fleurs préférées en amont et tout dans mon coin. Et j'arrive, je lui dis tiens, c'est pour toi. Et elle était au téléphone, je crois. Elle a dit non merci et elle est partie. Et moi j'étais genre comme ça avec mon bouquet et tout. Mais il y a vraiment eu un truc, c'est de genre attends, je suis occupé et je pars quoi.
Comme si tu lui avais dit, est-ce que vous avez une minute pour parler du
sida ? Je crois qu'elle m'a dit, on verra ça plus tard. Qui est une phrase vraiment que tu dis à ton propriétaire quand il dit, est-ce que je peux passer, relever le compteur ? Bah, on verra ça plus tard. Mais que tu dis clairement pas à quelqu'un qui t'a ramené des fleurs. Et ouais, et je m'étais vraiment vu, genre, on verra ça plus tard, ok, c'est pas grave. Mais
triste.
Tu vois, ouais, c'est triste, mais je crois que j'en ai fait une blague
ouais.
Quelques années après, tu vois. Donc.
Oui, en fait, c'est vraiment comme si ce que tu racontes, c'est comme si t'étais un sans-abri qui proposait, tu sais, les petits magazines sans logis. Tu vois. Non.
Ouais, ouais, exactement. Mais écoute, je suis tombé sur une phrase il y a pas longtemps dans un livre qui dit la comédie, c'est comédie égale drame plus du temps. Et en fait, je me suis dit, ok, ces trucs-là, sur le moment, c'était douloureux, mais j'ai la chance folle de faire un métier où c'est dans un coin, c'est dans un bloc-notes, et potentiellement dans quelques années, ça fait un truc où il y a beaucoup de gens qui vont en rigoler. Et c'est pareil, encore une fois, la base et l'origine de ce nouveau spectacle part de trucs quasiment douloureux. Et où maintenant je suis en mode vas-y, les gens rigolent, tant mieux quoi. Merci en vrai. Merci pour ce qui m'est arrivé parce que ça, je peux aller faire des spectacles en Suisse et en Belgique grâce à ça, donc c'est super.
Oui, c'est beaucoup plus drôle. Enfin, le râteau est beaucoup plus drôle que l'absence de râteau en fait.
Attends, ça me fait penser à une phrase. Je crois que c'est une phrase de Nekfeu qui m'avait marqué quand je me l'avais écouté, qui dit le pire dans la vie, il dit le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Et voilà. Et après, je crois qu'il y a même un truc religieux pour en avoir discuté avec certains potes croyants qui disent que si on te met des épreuves dans la vie, c'est que on s'intéresse à toi. Et il faut, là où il faut s'inquiéter, c'est quand on te met pas d'épreuves dans ta vie. Je sais pas si c'est, je crois que c'est globalement ça le principe.
Ouais. Pas les mots exacts.
Pas les mots exacts, mais...
tu te souviens de ta première guélan ? C'est un mot que j'utilise qui veut dire langue, qui veut dire... Pendant un court moment, ça a été cool ce mot et je l'ai juste gardé. Rouler des pelles. Ta première guélan.
Je pense que c'était plus un bisou. Je crois que j'étais en 6e sortie scolaire à Palavas-les-Flots, qui est la petite plage à côté de Montpellier.
Ouais.
Bus scolaire.
Ouais.
Soleil, plage et tout. Et je me rappelle être au fond du bus et un pote à moi qui tend une serviette. Donc, tu vois, entre deux potes à moi qui tendent une serviette.
Pour faire une petite chambre.
Pour faire une petite chambre. Et juste un bisou avec la fille que j'aime bien. Et de me dire, en fait, Palavas-les-Flots, c'est génial, quoi.
Mais tu m'étonnes. Et c'est encore génial maintenant, en fait.
Oui, c'est toujours génial, ouais. Mais vive les sorties scolaires dans des bus, ouais.
Mais ça c'est quand même c'est un truc de mec cool, ça, quand même, d'être le mec qui embrasse au fond du...
Non, mais c'était tard dans l'année, je pense qu'elle avait dû prendre un petit coup de soleil sur la nuque, elle savait plus trop je pense qu'elle avait pas trop bu et que elle avait pas bu assez d'eau, je sais pas, elle a dû avoir un couac dans son système pour qu'elle s'oriente vers moi, mais écoute, voilà.
T'allais à des booms ou pas? Où on disait plus boom.
Alors je sais pas si on disait boom, mais
non, boom c'est fini.
Ouais.
C'est pas fini.
Non. Si.
Si on allait à des booms.
Oui, si peut-être un.
Ouais.
Ouais, j'ai dû. Alors
j'en ai fait. T'as dansé des slow dans des booms.
Ouais, mais pareil, moment traumatisant. Je sais pas comment j'ai fait pour traverser.
Traumatisant. Si...
Ouais. Bah tu sais quand t'es timide et en plus moi j'ai un peu ce truc du. En fait, c'est assez paradoxal, mais je déteste qu'on me remarque, vraiment. C'est-à-dire que même sur scène, enfin, alors les gens, souvent, non, mais sur scène, tu vois, les gens disent c'est pas possible alors que tu montes sur scène, mais sur scène c'est autre chose, t'es protégé, il y a une distance, etc. Mais dans la vie, j'ai du mal à ce qu'on me remarque, et pourtant je fais 1m91, donc en fait, il y a plein de soirées où vraiment j'ai la tête au-dessus des gens comme ça, et où c'est dur d'être discret, tu vois. Si je pouvais être tout petit dans un coin et faire mon slow, je le ferais. Et donc, ouais, j'ai dû le faire, mais pareil, c'est des âges où t'es pas à l'aise avec toi-même, t'es encore moins à l'aise avec les autres, et tu te retrouves collé à quelqu'un que tu connais pas, c'est trop bizarre, quoi. Donc, j'ai dû faire, mais pareil, moment délicat, ouais.
Moment pas bien.
Ouais.
Mention au bac?
Mention assez bien, mais pareil, écoute, je l'ai compris que quelques années après. En fait, j'ai fait un bac scientifique parce qu'on m'avait un peu mis en tête que c'était la meilleure section, etc., ce qui est déjà trop bizarre de trier un peu des... Enfin, je crois que maintenant, il n'y a d'ailleurs plus de sections. Et donc, j'ai passé 2 ans à faire des maths et de la physique alors que je hais les maths et la physique et que j'étais nul. Et ça m'a appris... Et par contre, j'ai eu des bonnes notes en ça au bac, à peu près. Enfin, je suis parti de... Genre, j'avais 5 de moyenne et je suis parti à 15 en bossant. Et ça m'a appris que, en fait, avec du travail, tu peux solutionner pas mal de trucs et que c'est très enrichissant de faire un truc pour lequel t'es pas fait. Tu vois, c'est-à-dire que de 1, ça m'a appris que je voulais clairement plus faire de maths et de physique dans ma vie. Et ça m'a aussi appris que même un truc qui a l'air compliqué, si tu le travailles et que tu t'y plonges dedans, tu vas pouvoir t'en sortir. Et après, ça s'est revérifié avec d'autres expériences plus tard aussi. Trucs pour lesquels j'étais vraiment pas bon et juste en bossant, ça m'a aidé. Ou des trucs que j'aimais pas faire et je me suis rendu compte que, en fait, c'est en faisant des choses que tu veux pas faire que tu arrives à t'orienter vers des trucs qui te plaisent vraiment.
Tu sens ton bac S au quotidien?
Ouais, je pense que ça m'a donné un petit esprit logique, ouais.
T'as fait des petits boulots?
Ouais.
T'as fait quoi?
Pas beaucoup, hein. Alors, j'ai eu la chance de vite faire des blagues. J'ai fait... Je sais pas s'il y a prescription sur ce truc. J'ai fait des enquêtes de satisfaction à Roland-Garros. C'est-à-dire que j'avais une petite tablette et je devais aller voir des gens pour les interroger sur est-ce qu'ils ont aimé ou pas. Et du coup, à la fin, faire une moyenne de satisfaction sur Roland-Garros. Sauf qu'au bout de 3 personnes, j'ai vite compris que je pouvais inventer des gens et que j'avais juste à mettre n'importe quoi et que je pouvais aller regarder des matchs de tennis. Donc je pense qu'il y a eu une enquête à un moment donné à Roland-Garros qui est erronée. Si vous regardez ça, Roland-Garros, il y a une année, il y a une enquête qui ne marche pas. Et après, pareil, un des trucs que, tu vois, qui n'ont pas l'air ouf sur un CV, mais qui en fait m'a vachement servi, j'ai été vendeur chez Abercrombie, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et je me rappelle d'un déclic qui m'a vachement aidé sur scène, qui est qu'on avait une période d'essai de genre 2 mois, donc pendant laquelle tu savais pas si t'étais conservé ou pas, et où j'avais vendu vachement de trucs parce que je m'étais donné à fond. Et à la fin de la période d'essai, je vendais plus de t-shirts parce que je savais que j'étais pris, et je me suis rendu compte que j'étais payé exactement la même chose, que je travaille bien ou pas bien. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien trouver un métier où si je travaille beaucoup et si je travaille bien, je suis peut-être un peu plus valorisé que si je travaille pas. Et ça m'a surtout appris qu'après 2 mois à plier des t-shirts, t'as plus envie de plier des t-shirts. Donc non, mais c'est pareil, un apprentissage, quoi. Oui. Et surtout que ça m'a fait écrire un petit sketch qui s'est retrouvé dans le premier spectacle. Donc c'était marrant, pareil, tu vois, j'avais des gens qui rentraient. En fait, je sais pas si tu te rappelles d'Abercrombie, c'était des mannequins, c'était pas des vendeurs, c'était des mannequins torse nu, très musclés. Et il y a une année où ils se sont rendus compte que c'était discriminatoire d'embaucher des gens sur leur physique. Oui. Et donc, ils ont embauché des gens au physique plus normaux. C'est à ce moment où j'interviens dans l'histoire. Sauf que moi, j'avais des gens dans la boutique qui étaient pas revenus depuis longtemps. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois que des gens rentrent, me voient genre avec un polo Abercrombie et se disent, excusez-moi, ils sont où les vendeurs? Je dis, c'est moi. Et ils disent, non, allez, c'est marrant, jeune homme. Mais les vrais mecs, les vrais vendeurs, ils sont où, quoi? Et j'étais en mode, mais c'est hyper méchant ce que vous êtes en train de me dire. Et pareil, tu sais, c'était sur les champs, donc t'avais des Qataris qui venaient, qui te parlaient super mal, qui achetaient des parfums. Et moi, je suivais avec un petit sac comme ça. Oui, monsieur, bien sûr. Et voilà. Et par contre, j'ai un vigile un jour qui m'a dit, mec, t'es pas fait, avec qui j'avais un peu sympathisé, qui m'a dit, t'es trop marrant pour être, je faisais n'importe quoi, je me cachais dans des ascenseurs, je faisais rire les clients pour qu'ils achètent des trucs et tout, et qui m'a dit en fait t'es trop marrant, je sais que tu fais un peu de scène, lâche pas et va vers ça, mais ta place elle est pas ici. Ouais. Donc ça m'a marqué.
T'as gardé un savoir-faire en matière de pliage de t-shirt?
Ce qui est catastrophique, c'est que j'ai oublié.
Tu sais pas faire le truc où ils font genre.
Et puis après, non, tu vrai, fais, y a des gens, ouais.
Paf, et il est...
Ouais, ouais, il y a des gens, ils font comme ça, le t-shirt
ouais, voilà, est plié. Plié.
Mais ce qui est marrant, c'est que, tu vois, quand il y a eu mon premier spectacle, j'ai eu un affichage sur tous les Champs-Élysées, il y avait l'affiche du premier spectacle, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai joué au théâtre des Champs-Élysées, qui est vraiment à 500 mètres, et je me suis dit, c'est marrant, comme quoi, parfois, les boucles se ouais. Bouclent un petit peu, quoi.
Alors il y a toujours un moment dans Small Talk, le principe de Small Talk c'est je reçois des gens connus pour parler de tout de ce pourquoi ils sont connus, mais déjà on a fait des entorses, mais il y a un moment là c'est intermède pas Small Talk,
okay.
Pour parler de ton spectacle
oui.
Et de la scène. Ton spectacle il s'appelle Par Amour,
oui.
Mais en fait j'allais dire pourquoi, mais tu l'as déjà un petit peu expliqué, c'est mm-hmm. Parce que ça prend racine dans une déconvenue amoureuse.
Ouais. Ben écoute, ça part d'un. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait les relations sentimentales avaient toujours pris beaucoup de place dans ma vie. C'est-à-dire que ça faisait partie des trucs qui m'impactaient beaucoup. C'est-à-dire que je sais pas, tout le reste pouvait être anecdotique. D'autres déconvenues personnelles pouvaient être anecdotiques, mais j'avais toujours mis énormément d'affect et d'intensité dans une relation, dans un râteau, dans un truc comme ça. C'est des choses qui m'impactaient beaucoup, tu vois. Et donc, le premier spectacle, c'était un perso un peu célibataire qui galère, ce qui était ma réalité à cette époque-là. Et entre-temps, il m'arrivait plusieurs histoires sentimentales, dont une qui a pris vachement de place, qui m'a rendu vraiment triste et malheureux, qui était un état dans lequel je m'étais jamais retrouvé avant et à cet âge-là. C'est-à-dire que ce qui était hyper paradoxal, c'est que professionnellement, tout se passait bien. Donc, je me vois vraiment, tu vois, faire des salles de 1500 personnes avec des gens qui applaudissent et qui sont trop contents. Et moi, en coulisses, avant et après, être vraiment au fond du trou et pas comprendre pourquoi je suis là, tu vois. Et je me suis dit, ça, je peux pas garder ça toute ma vie. Il faut que j'en fasse quelque chose. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à écrire un peu sur ce thème-là. Je me suis rendu compte que c'était, c'est pas un scoop, mais que l'amour c'est ce qui a potentiellement le plus universel et que ça fait des centaines d'années que même depuis Shakespeare que les gens parlent d'amour et qu'après c'est juste revisité dans d'autres façons, dans des films, dans différentes œuvres. Mais je pense que Titanic c'est la même histoire que Shakespeare dans l'idée. Et vu que j'avais pour ambition et volonté de faire un spectacle populaire et qui traverse un peu les frontières et qui touche beaucoup de gens et de générations, je me suis dit c'est quand même un bon thème pour réunir un enfant de 7 ans et une personne de 77. Je pense que à 10 ans t'as vécu une peine de cœur en CM1 et à 77 ans plusieurs aussi. Donc je me suis dit je vais parler de ça. Et c'est aussi le titre d'une chanson de Diams qui est une de mes artistes préférées. Donc c'était un petit clin d'œil à ça.
Il t'arrive de ne pas conserver des blagues qui font rire parce que t'en es pas fier?
Oui. Ça m'est arrivé moins sur celui-ci parce que j'essaie d'être fier de toutes les blagues et que j'ai fait disons que je l'ai un peu plus passé à la passoire ce spectacle que celui d'avant. Celui d'avant, tu vois, par exemple, tu peux faire rire avec un gros mot parce que c'est surprenant en fait et que dire une insulte à un instant où tu t'y attends pas, c'est marrant. Ça peut marcher dans certains contextes, mais abuser de ça, je trouve pas ça gratifiant. Après, c'est mon ressenti perso. Et ma façon de voir les choses, et il y a très certainement d'autres gens qui vont dire, en fait, ça rigole, donc je vais le garder. Mais moi, j'essaie de me dire, si j'assume pas la blague, je vais pas la faire. Mmh. Tu vois, ça m'est arrivé qu'il y a des trucs qui marchent, mais qui correspondaient pas vraiment à ce que je suis, donc je les ai pas gardés. Mmh. Voilà.
T'as dit très souvent, tu l'as déjà d'ailleurs répété là, que quand t'as commencé à faire du stand-up, tu faisais jusqu'à 6 comedy clubs par soir.
Ouais.
Tu faisais le même passage à chaque fois?
Pendant un temps, oui, parce que j'en avais qu'un. Donc en fait, c'était, c'est ce qui a donné mon passage à Montreux, en fait, qui fait que je pense que je suis arrivé. Après, il y a dû avoir un alignement de planètes et je veux pas mettre tout ça sur ça. Mais en fait, j'avais tellement répété que c'était vraiment à la virgule et à la respiration près.
Ouais.
Et après, un exercice que je faisais qui m'a vachement aidé à construire le spectacle, c'est que je me disais, en fait, un spectacle, si tu le découpes, allez, disons que c'est 1h10, ça fait 7 fois 10 minutes, à peu près. Uh-huh. Donc ça veut dire que si tu joues 7 fois dans la soirée, t'es censé pouvoir 7 passages, faire 7 passages différents. Et je voyais beaucoup de gens qui jouaient plusieurs fois mais qui faisaient le même truc. Et je me disais, ce serait bien que je me mette ce défi de me dire, bah allez, je fais 5-6 comedy club par soir, mais à chaque fois j'essaye de faire un passage différent. Et si à la fin de la soirée j'y suis arrivé, c'est que j'ai quasiment un spectacle. Mais après, encore une fois, c'est ma façon de concevoir le spectacle. Et il y a des trucs du spectacle qui sont difficilement faisables en comedy club, tu vois. Tous les spectacles ne sont pas découpables, etc. Mais moi, je me mettais ce petit défi.
La fin de Small Talk, la dernière partie de Small Talk, c'est toujours, ça s'appelle en vrac. C'est-à-dire que là, c'était un tout petit peu chronologique. Maintenant, ça cesse d'être chronologique.
Okay.
Qu'est-ce que tu penses des gens en retard?
En retard, à quel niveau?
En retard au rendez-vous, par exemple. Eh tiens...
Ouais, mais, genre vraiment en retard ou 5 minutes?
5 minutes, on est dans, on, à mon avis, on est dans, l'acceptable, quoi qu'il arrive. Sauf, il y a un certain nombre de choses où non, c'est pas acceptable 5 minutes. Par exemple, je sais pas, une opération chirurgicale importante, des choses comme ça. Mais non, disons un peu plus, genre, tu sais, un quart d'heure, 20 minutes, tu vois.
Ça m'excèque au plus haut point. J'ai du mal. En fait, j'ai des potes à moi qui sont comme ça. Et tu sais que tu te manges une demi-heure de retard. Mais là où c'est problématique, c'est parce que moi, je suis de la team très à l'heure, voire en avance.
Ouais.
Et donc, ça crée un... c'est gentil, merci.
Je t'en prie,
merci beaucoup. Ça crée un décalage de 45 minutes. Donc maintenant, j'ai trouvé une technique. C'est que je donne un faux horaire aux gens qui sont en retard. Mais après, parfois, je relativise. Je me dis, allez, je l'aime comme ça parce qu'il est en retard. Voilà. Mais ça, c'est un peu relou parfois.
Mais surtout parce que comment, c'est injustifiable en fait du point de vue du mec qui a une demi-heure de retard. C'est-à-dire, tu dis quoi? Tu dis non, mais parce que désolé, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est la seule.
Sauf s'il y a une excuse.
Oui, mais c'est si rare. C'est si rare qu'il y ait des vraies excuses. Ouais. Quoi. C'est genre, je suis désolé, il y avait des problèmes dans le métro. Quel pourcentage de ton retard ça explique les problèmes dans le métro?
Je suis d'accord.
5%, 10%, 15%.
Si c'est pathologique, c'est compliqué. Mais après, ça dépend. Je sais pas, ça te le fait ça. Ça dépend qui c'est aussi. C'est-à-dire que si c'est ton pote qui a une demi-heure de retard, c'est pas grave.
Oui.
Mais si on te dit, punaise, il y avait 50 Cent sur un événement, il a eu une demi-heure de retard, tout le monde va dire, bah normal, c'est 50 Cent quoi.
Ouais.
Et t'es sûrement dans une guerre de gang ou en studio avant, c'est pas grave. C'est même presque un peu cool. Donc.
Ouais, tu crois qu'il respecte les non, il a sa propre
50
loi.
50 Cent, qu'est-ce qu'on entend là.
Est-ce que tu mets les petits V bleus de confirmation sur WhatsApp?
Non. Non, parce que...
Est-ce que c'est par lâcheté, on pourrait dire?
Non, c'est parce que... Pourquoi j'ai enlevé ça?
Pour pas qu'on voit que t'aies lu le message.
Parce que ça met une forme de pression, je trouve. J'ai pas envie que mon téléphone me mette un coup de pression. Déjà qu'on s'en prend suffisamment dans la vie.
Ouais.
Si en plus t'as ton WhatsApp qui balance, qui dit « Ah, tu l'as vu
».
Surtout que... Non, en fait, j'aime bien me dire non. Laissez-moi la liberté de répondre quand je veux.
Mais tu l'as tout de même, même avec les V bleus. Tu peux dire genre, j'ai vu ton message.
Oui, mais ça peut être mal interprété. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un peut dire tu l'as vu et tu me réponds pas, alors que tu peux juste... comment je peux dire ça? Je sais pas, parfois je lis des trucs et je sais que je vais y répondre, mais un peu plus tard.
Oui.
C'est pas parce que je l'ai vu maintenant que je dois répondre maintenant.
Oui.
Voilà.
Mais après, il y a le. De toute façon, il y a. Ah, il a été connecté à tel moment, genre.
Ça, j'ai enlevé aussi.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
On voit rien, quoi.
Non.
Ça
Non, j'aime pas. Non, je... ouais, pareil. Comme ce que je te disais quand j'étais enfant.
Ouais.
Je suis discret, même sur WhatsApp.
Est-ce que des fois, t'envoies des messages WhatsApp et après, tu les effaces? Il y a Jérém Nadeau qui a fait une toute petite vidéo là-dessus sur le fait qu'il a envie de... Pas que, qu'il veut tuer les gens qui font ça, parce que tout à coup, en fait, c'était peut-être un truc sans importance, mais tu l'effaces et tout à coup, tu veux absolument savoir ce qu'il y avait dans le message.
Pas trop, mais par contre, ce que je fais souvent, c'est que je fais des notes vocales que je recommence, mais en fait, je me dis, s'il y avait une caméra qui filmait, c'est trop marrant. Ça fait genre, ouais, salut, c'était juste pour te dire que... Ouais, bonjour. En fait, je me permettais parce que je voulais ça. Et après, tu refais. Et la dernière version est pas si ouf que ça, en plus.
Oui.
Donc, tu sais même plus ce que tu voulais dire au début.
Est-ce que ça valait cette version?
Non, je pense pas. Je pense pas.
À quel point est-ce que tu parles portugais?
Et au falo portugais.
D'accord.
Et c'est tout.
Ça s'arrête pas. T'as vécu 6 mois au Brésil?
Ouais. J'ai vadrouillé 6 mois au Brésil. Ouais. Pareil. Apprentissage de ouf de la vie.
Ouais.
Je me suis retrouvé... j'ai le droit de développer un peu ou...
Oui,
je me suis retrouvé... En fait, je suis parti en échange aux États-Unis le semestre d'avant. Et je me suis retrouvé qu'avec des gens qui fumaient beaucoup de drogue, qui se couchaient à 6h du mat et qui jouaient au poker. Et moi, j'étais vraiment dans une optique de découvrir et de profiter du fait d'être aux États-Unis. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est pas l'endroit où t'es qui fait la qualité, c'est les gens avec qui t'es. C'est-à-dire que maintenant, avec quelques années de plus, je préfère 1000 fois être sur un parking à Tourcoing avec mes meilleurs amis qu'être aux Bahamas avec quelqu'un avec qui ça se passe mal. Bah, ce qui n'est pas une découverte extraordinaire, mais que j'ai réalisée à cette période-là. Et ensuite, je suis parti. J'ai changé d'endroit parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce contexte-là. Et j'ai pu faire une partie de mes études au Brésil. Et là, pareil, je me suis retrouvé à avoir un jour de cours par semaine, donc 6 jours à rien faire, en ne connaissant personne là-bas, tout seul, toute la journée, dans un endroit où je parle pas la langue et où je peux pas trop sortir parce que c'est un peu dangereux. Et je me suis ennuyé à un point qui, je pense, je pourrais avoir un master en ennui, quoi. Et en rentrant en France, je me suis dit, je ne veux plus jamais m'ennuyer à ce point-là et avoir le sentiment de passer autant à côté de ma vie. Et en fait, ça a été la première impulsion pour me dire je me jette corps et âme dans le stand-up. C'est-à-dire que je suis rentré, je me suis dit en fait je suis en retard parce que j'ai perdu 6 mois et pendant 6 mois il y a d'autres gens qui bossaient. Pas que ce soit une compétition, mais que en fait si je veux développer mon art, il faut que je rattrape les 6 mois que j'ai passé à rien faire. Et donc comme un mec qui partirait en retard sur la ligne de départ, quoi. Je me suis dit, il faut vraiment que je cours vite là pour arriver à ce que je veux.
C'est vous, c'est le point commun de toutes ces épreuves, de trucs moments désagréables et qui en fait te donnent des ailes, quoi.
Ouais, bah je le vois un peu comme Slumdog Millionnaire.
Oui.
Tu sais, je crois qu'à chaque réponse, c'est une expérience qu'il a eue dans sa vie. Bah, je le vois un peu comme ça, ma vie. Je la vois un peu comme ça.
Tu dis que tu sais pas très bien te déplacer, avoir des mouvements, mais quand même, t'as dansé. Il t'arrive de danser. T'as dansé à ton gala à Montreux en 2021.
Ouais, ouais.
Tu sais danser un petit peu quand même.
Non.
Non.
Franchement, c'était juste, j'ai appris par cœur un truc pendant quelques heures. Mais ouais, j'essaie de travailler cet aspect-là d'ailleurs, via le sport, etc. Mais ouais, j'ai quand même des problèmes de grand rigide.
Et t'as pas le sens du rythme?
Je te permets pas.
C'était une question
ou un constat?
Non, voilà. T'avais pas le sens du rythme. Question suivante.
Je sais pas.
Ouais.
Non, ça devrait. Je suis pas un danseur.
Ouais, ouais.
Enfin, je me fais pas arrêter dans la rue pour mes qualités de danseur. On me dit pas, ah ouais, t'es le mec qui danse extraordinairement bien.
J'ai pas beaucoup aimé tes blagues.
Punaise.
Mais tes danses.
Ouais, alors.
T'es très, très, très bien. Est-ce qu'il y a des domaines de la connaissance dans lesquels, oh là là, t'es incollable? Le foot.
Incollable, non, mais c'est une passion depuis que je suis très jeune. Donc ouais, c'est stocké dans un disque dur. Tout ce qui a trait à la comédie aussi, j'en ai regardé pas mal. Le rap aussi, beaucoup. Mais ça fait un peu une description de teubé, non,
non?
J'aime le foot et le rap et les chips.
Et les chips. Vraiment, ça, c'est les trois mamelles.
Ça va rajouter des râteaux à la liste. dont on parlait. Non, écoute, après, ouais, par contre, j'aime bien m'instruire sur à peu près tout, quoi. Dès qu'il y a un truc, même si c'est la boîte des Miel Pops qui a une description derrière, j'aime bien lire et savoir ce qu'il y a dans les Miel Pops.
Oui.
Et non, j'essaie de me cultiver sur à peu près tout.
Puis en plus, je suis d'accord sur les Miel Pops parce qu'il y a quelque chose d'un peu intriguant. C'est-à-dire que comment c'est possible de faire ces choses qui soient à la fois si sphériques, si légères et si croustillantes.
Ouais, voilà, bien sûr.
Oui, tout à fait.
Et qu'on apprécie autant à 45 ans qu'à 12.
Ouais. Exactement. Est-ce que tu as déjà été sur Tinder?
Ouais, mais il y a longtemps.
Plus depuis qu'on te connaît.
Même un peu avant.
Oui.
Un peu avant parce que je trouve qu'il y a un truc qui est complètement contre-intuitif par rapport à ce qui est censé être une rencontre et une relation amoureuse. Après, je conçois très bien que ça puisse aider certaines personnes dans certaines situations. Et j'avais lu un truc une fois qui m'avait marqué. Tu vois le livre... Alors, je sais pas si... Non, c'est pas ce... Tu vois... comment il s'appelle ce gars? Yuval Noah Harari.
Oui.
Je pense que c'est dans son dernier livre.
Oui.
Qui dit que il a peur que dans quelques années, en fait, tu te bases que sur des algorithmes. Ce qui est aussi un épisode de Black Mirror, je crois. Où en gros, tu te fies que à ce que te dit ton téléphone et pas à ton ressenti. Et donc, les trucs de match, de comptabilité, compatibilité et tout, j'y crois pas trop. Et après, oui, pour toutes ces raisons de notoriété et tout, pas ouais. du tout. Je préfère vraiment être tout seul ou aller aborder quelqu'un dans un contexte qui fait que c'est logique que, ouais. que slider sur mon téléphone. Et j'essaie de me détacher du téléphone, d'ailleurs, de manière générale. Donc,
Quelle est ta position sur les rapports sexuels qui font intervenir plus ouais. de deux personnes?
On passe vite du coq à l'âne ouais. dans Small Talk. Je peux boire un peu avant cette question?
Bien sûr,
ouais, parce que
bien sûr, prends ton temps.
Quelle est ma position sur des gens qui ont des rapports sexuels?
Non, sur les rapports sexuels en général qui font intervenir plus de deux personnes.
Donc attends, deux personnes je vois, plus de deux. Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Oui, ouais. mais est-ce que toi t'as... Oui, bien sûr que la liberté, bien sûr, mais est-ce que toi, tu dis oui, par exemple, chacun a le droit de manger des pommes, et peut-être toi, t'aimes pas les pommes, tu vois. T'aimes bien les pommes ou pas?
Les pommes, ouais, ça va. Ouais. Mais non, écoute, moi, on m'a pas trop proposé, donc non, non. J'entends totalement la liberté de chacun.
Est-ce qu'il y a un aliment que tu aimerais bien voir disparaître de la surface de la Terre? Est-ce que tu es raciste d'un aliment?
Raciste, non. Mais qu'est-ce que j'ai mangé la dernière fois? Je me suis dit, je sais pas comment les gens tolèrent ça. La coriandre.
Ah oui, oui. Mais c'est génétique, ça, je crois.
La coriandre, vraiment, j'ai aucune affinité avec cet aliment. Ouais, donc, ouais. pas disparaître, mais...
mais genre, oui, se faire oublier un petit peu.
Se faire oublier un petit peu, ouais. ouais.
Est-ce que tu préférerais avoir une personne de petite taille qui vit en permanence dans tes cheveux, ou ouais. alors ne pas avoir de chevilles? Les chevilles, c'est très important. Les petits jongles que tu fais avec
Un petit frérot qui...
Oui, il est là, il est dans tes cheveux, ouais, machin, ouais. mais il est là, quoi. Tu vois, il est pas...
Non, mais je pense que dans les moments où tu te sens un peu seul, c'est un tu dis, bon, j'ai un...
Ouais.
Je vais appeler mon frérot des cheveux.
C'est un coloc.
Ouais, voilà.
Donc plutôt ça que pas de chevilles.
Un petit, okay. ouais, qui prend pas de place, on ouais. apprend à se connaître, on sympathise, voilà.
La première fois que tu as reçu une belle somme d'argent,
ouais.
est-ce que tu as fait quelque chose de bien avec? Enfin, qu'est-ce que tu as fait avec?
Le premier gros cachet que j'ai eu, je peux t'en parler librement, hein, c'était j'ai gagné le Campus Comedy Tour, qui oui. était un concours d'humoriste, donc j'étais étudiant. C'était 2500 euros et je les ai mis de côté en me disant si un jour j'en ai besoin, je vais m'en servir. Et c'est ce qui m'a servi quasiment au centime près à créer ma société de production. Donc en fait, je l'ai réinvesti dans ma boîte maintenant. Voilà. Donc je suis en plus pareil, ça faisait sens, tu vois, de me dire bah je l'ai gagné avec des blagues, je vais le remettre dans des blagues.
Tu l'as pas claqué dans une montre inutile, quoi.
Non.
T'as fait un truc bien.
Ouais, ouais.
Bien
pareil, j'ai pas. Tu vois, je suis. Ouais. J'en parlais avec des potes la dernière fois. On se disait on est content de. Je crois que j'ai des loisirs assez sains et simples. C'est-à-dire que vraiment, tu mets un match de foot, tu mets un abonnement Beansport pour regarder du foot toute la journée et un abonnement dans un club de boxe, je peux m'amuser, quoi.
Ouais.
J'ai vraiment pas du tout besoin d'aller en jet privé, je sais pas où, pour être heureux. Donc, je suis content à ce niveau-là.
T'as déjà eu un profil LinkedIn?
Non, je suis assez fier de ça. Je suis assez fier. Et tu sais que je fais trop le mec parfois. Genre, j'ai des potes qui me disent ouais, t'as vu sur LinkedIn? Et je dis, mais les gars, je sais pas, c'est quoi LinkedIn? Je sais pas comment ça marche. Et apparemment, si tu vas sur des profils, les autres voient que t'es allé sur le profil ou je sais pas quoi.
Oui.
Et ça me ravit de pas être dans ces problèmes.
Quelle a été ta plus grande douleur physique?
Oh waouh. Alors, j'ai déjà pris un nombre de bides. J'ai déjà eu des bides dans certains endroits qui font que c'est une douleur que je peux pas te décrire. Ça fait plus mal que n'importe quel coup que tu peux prendre dans ta vie. Faire des blagues, bah t'as peut-être déjà expérimenté ça, hein, mais devant des gens qui ne rient pas.
Oui.
Et surtout que tu peux pas aller à la pharmacie et dire j'ai pris un bide, vous aurez un Dolibide 500. Et le gars il dit c'était un gros bide ou pas, prenez du 1000 parce que voilà, il prend la température et tout. Restez 3-4 jours chez vous, ça va aller.
Oui.
Ouais, j'ai déjà eu des scènes où tu sais plus trop où t'es après, quoi.
Oui.
Donc je pense que c'est ça.
Ça te sonne, quoi.
Ça te sonne, ouais vraiment. Ouais. C'est un Dolibide à étudier.
Ouais. Dolibide, ah complètement.
Ouais.
D'accord. Est-ce que tu reçois des nudes non sollicités?
Non. Vraiment? Alors écoute, c'est marrant que tu m'en parles aussi. Tout le monde est convaincu de ça. Mais j'aimerais rappeler aux gens que je ne suis ni Gazo, ni Lil Wayne. Et que vraiment, moi, j'ai... Pareil, encore une fois, j'essaie de me détacher au max de... des réseaux et de tout ça. Mais je reçois quand même plus globalement des filles de 14 ans qui me disent salut, je suis... Non, peut-être plus âgée, mais je suis dans un BDE. Est-ce que tu peux faire un soutien à la liste Warriors?
Oui.
Ou bonjour, ma meilleure amie va avoir 15 ans demain. Est-ce que tu peux lui faire un ouais. petit mot? Mais ouais. vraiment, pas du tout.
Est-ce que tu es jaloux en amour?
Je suis pas jaloux. Mais je, pour avoir été dans la position du gars célibataire, je sais lire le jeu de mes adversaires.
Oui.
C'est-à-dire que je suis pas jaloux en mode pourquoi tu parles à un tel ou un truc comme ça. Mais je sais me placer dans la tête du gars et me dire je sais ce que toi t'as en tête, mon gars.
Voilà. Et tu, donc, tu vas te calmer hein, tout de suite.
Ça, je me le dis qu'à moi parce que voilà. Mais je vois clairement dans ton jeu, parce que j'ai déjà été oui. potentiellement ce gars-là,
oui.
donc me fais pas croire que t'inquiète. Oui. Mais après, je suis sûr de mon karaté, comme on dit, donc ouais. je suis pas trop jaloux.
Est-ce que tu penses à la mort?
Ouais.
Souvent?
Ouais, franchement, ouais. Oui. Parce que... Mais après, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit un truc qui m'a beaucoup soulagé sur ça, c'est en fait, la mort, c'est surtout chiant pour les gens autour de toi, mais... Toi, tu t'en rends pas compte parce que t'es mort.
Ouais.
Et ça m'a vachement calmé. Oui. Je disais, c'est vrai, en fait, t'es mort, quoi. Mais c'est plus relou pour les gens autour. Mais ça m'a un peu fait rire de penser oui, à oui. ça. Après, ouais, j'y pense parce que, en fait, moi, je suis intimement convaincu que j'ai 19 ans. Et après, je vois parfois des gens de 19 ans et je dis, ça va, mon gars, on a le même âge. Et ils me disent, mais mec, pas du tout. En fait, t'as 29 ans et tu sais pas comment marche TikTok, donc reste tranquille. Et donc ouais, je me rends compte que la vie passe, que c'est agréable, hein, mais que ça passe et que c'est des choses qui font partie de
oui.
de la vie. Ouais, ça me ferait un peu yèche d'avoir une mort nulle. J'y pense souvent ça. Je me dis, je peux pas avoir fait autant de chicha et avoir autant couru sur un tapis de course pour manger une pompote de travers, quoi.
Oh, étouffé ça... par une pomme pote.
Non, mais ce serait. Ou sinon, faut que ce soit vraiment marrant, mais.
Oui, oui, oui.
Je touche du moins. Mais ouais, ouais, ça me fait un peu peur, la mort.
Et alors, si tu devais choisir une mort violente, laquelle est-ce que tu choisirais?
J'espère qu'on m'a tiré dessus. Ouais. Qu'il y a une légende autour de
ah,
ça.
Ouais.
Comme Tupac. J'étais, ouais. genre, je sais pas, j'étais à Las Vegas, j'ai fait un super spectacle, oui. j'avais des chaînes en or, un tatouage. Thug Life et Nick La Police dans le dos et oui. Je t'aime maman là pour contrebalancer avec le ouais. Nick La Police qui est là. Donc tu diras il était violent mais pas tant que ça. Il avait surtout un cœur tendre et je sais pas que un humoriste rival qui me disait ça c'était hyper marrant, tu m'as vénère et bam il me tire dessus et je meurs et ça passe en boucle sur CNN ou je sais pas quoi. Mais un truc
oui.
événementiel, mais toute autre mort m'intéresse très peu.
Ouais.
Ouais.
Faut commencer par faire les tatouages.
Faut commencer par les tatouages, et c'est possible que je meure à ce moment-là. Donc ça serait un début de légende.
Genre avec des trucs pas finis, Nick Lap.
Nick Lap, ouais.
Paul,
c'est fini.
Merci, ouais, merci mille fois. Y a un truc, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais toi t'as dit des choses dans Small Talk là qui peut-être manquent à ta fiche Wikipédia. Donc si jamais vous voulez ajuster la fiche Wikipédia de Paul Mirabel grâce à cette interview. Vous pouvez, et vous mettez cette interview en source, et comme ça, le savoir universel augmente grâce à vous.
Merci beaucoup. C'est marrant, parce que sur mon Wikipédia,
oui.
Ils se sont vraiment arrêtés à une année. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui était très précis, et après il a dit à partir de 2022, il a changé de taf, quoi.
Et c'est même pas qu'il y a des choses fausses après, c'est qu'il y a rien, c'est ça?
Ouais, ouais. Ouais. Mais genre, ouais, ouais. Mais donc, ouais, si vous voulez.
Ouais, ouais.
Mais après, bon, c'est pas. J'ai pas non plus une carrière méga longue et intéressante au point d'avoir un Wikipédia, mais
ouais.
peut-être compléter avec des trucs.
Voilà, de 2022 à 2025, vous faites le travail. S'il vous plaît, voilà. reprenez le rôle de ce monsieur qui est peut-être décédé, d'ailleurs. Voilà, on l'espère
peut-être,
pas.
Peut-être,
voilà.
ouais, en faisant voilà. ouais, Wikipédia.
Merci beaucoup, Paul.
C'était gentil. Merci.
Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok.
Konimi.
Bon bah moi je me casse. Hein. Faut que je tank.
Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, quelle est la taille de ton chien? Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, tu prends des douches ou des bains?
Cet épisode a été enregistré le 5 mai 2025 et devait être le dernier épisode tourné dans l'ancienne cafette. C'est pour ça qu'on a fait une fin pleine d'émotions, avec David qui éteint les lumières, pour dire que c'est fini, on s'en va, c'est la dernière fois qu'on voit ce décor. Sauf qu'en fait, après, on a eu des impératifs de diffusion et on a dû décaler cet épisode pour poster des small talk tournés après, dans la nouvelle cafette. Parfois, c'est comme ça. On doit diffuser des épisodes qu'on a tournés avant, après ceux qu'on a tournés après. Donc c'est pour ça qu'on poste cette vidéo avec l'ancien décor que maintenant. Mais vous avez déjà vu le nouveau décor. Alors du coup, la fin pleine d'émotions, bah, elle marche moins bien. Enfin, elle marche quand même un peu, mais un peu moins bien. Rapport au fait que vous avez déjà vu la nouvelle cafette. Parce que si vous l'aviez pas vue, eh ben vous vous seriez dit « Waouh, mais pourquoi il éteint les lumières? Et pourquoi il y a cette musique émotionnelle? Il va se passer quoi après? Et pourquoi j'ai cette voix ?» Eh ben il va se passer une nouvelle cafette. Mais là, vous l'avez déjà vue. Donc vous savez. Donc bah, il y a moins d'émotions. Parce que là, du coup, c'est juste David qui éteint des lumières. Mais ça va, c'est cool de voir David éteindre des lumières. Bon bref, voilà, vous savez tout. Bon allez, rendez-vous dans la nouvelle cafette que vous avez déjà vue. Plein de fois.